France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir un petit pas pour l'homme, pardon pour la femme, un pas de géant pour l'Académie française. Celle-ci vient en effet d'accepter la féminisation des noms de métiers et de professions, autant dire une révolution pour cette institution qui s'était toujours refusée à toute évolution dans ce domaine jusqu'à présent. On tentera d'ailleurs de comprendre pourquoi. On se demandera aussi au passage quelle est la meilleure façon de féminiser les noms de métiers pour ceux qui ne sont pas encore dans le langage courant. On s'interrogera de manière plus générale sur la féminisation de la langue. On s'arrêtera notamment sur la question de l'accord de proximité, sur un sujet qui fâche toujours, celui de l'écriture inclusive. À la veille de la semaine de la langue française et de la francophonie, on se demandera aussi si nous ne sommes pas plus conservateurs que les autres francophones en matière linguistique ici en France. On s'interrogera plus généralement sur notre rapport à la langue française. Pourquoi les histoires de mots nous font grimper au rideau? Deux invités à nos côtés pour en parler, le linguiste Bernard Cerchiglini, professeur à Paris 7. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ancien directeur de l'Institut national de la langue française, ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Votre dernier livre, Bernard Cerchiglini, publié au Seuil, s'intitule « Le ministre est enceinte » ou « La grande querelle de la féminisation des noms ». Toujours à nos côtés, l'écrivaine et académicienne Danielle Salnavre. Bonsoir à vous, Danielle Salnavre.
Bonsoir.
Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure que vous faites partie de la fameuse commission de l'Académie qui vient d'approuver la féminisation des noms de métiers. Alors que vous soyez auditeur ou auditrice de France Inter, que vous exerciez un métier dont la dénomination au féminin pose question ou pas, surtout n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, Philippe qui est en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci de prendre mon appel. Je voudrais d'abord saluer Monsieur Cerchiglini, dont je connais les travaux, étant linguiste de formation moi-même, et qui prouve ce soir, et merci France Inter, qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être académicien pour parler de la langue française. Donc, même s'il est à côté de Madame Salnav. Donc ma question va poser justement sur la question de l'Académie française. On est au courant donc du fait que l'Académie a accepté de valider donc cette féminisation des noms de métiers. Et la question qui m'intéresse moi, c'est de savoir, en gros, quelle est la pertinence de l'Académie et quel est le pouvoir de l'Académie de légiférer sur la langue française, sur les pratiques langagières des Français à l'oral comme à l'écrit? Et donc ma question, elle est très polémique pour le coup, c'est au-delà du pouvoir, c'est quelle est la légitimité actuelle de l'Académie française sur ce genre de questions? Est-ce qu'elle a encore du pouvoir dans les maisons d'édition, dans les maisons d'édition qui écrivent des dictionnaires? Et le fait que l'Académie ait fait ce qu'elle a fait dernièrement, est-ce que c'est si important que ça, dans la mesure où on n'a pas attendu l'Académie pour féminiser les noms de métiers? Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas attendu. D'autres personnes, on est nombreux qui sont dans mon cas. Et donc voilà, la question est celle de l'Académie française et de son pouvoir de légiférer sur la langue. Et j'aimerais surtout avoir l'avis de M. Bernard Cerchiglini sur cette question.
Voilà. Merci beaucoup Philippe pour cette entrée en matière. J'aurais pas fait mieux en matière de questions. Qui veut répondre? Bon, je sais que vous avez interpellé Bernard Cerchiglini, mais ils sont...
Non, tout simplement, très rapidement, question, elle est pleine de réponses, la question. Il n'y a aucune question dans votre question, monsieur, il n'y a que des réponses. Votre réponse, elle est triple. Vous suggérez, je vous laisse la responsabilité de cette suggestion, je pourrais la combattre, que l'Académie n'a ni légitimité, ni pouvoir. Vous avez donc répondu à votre propre question. Je laisse Bernard Cerchiglini répondre maintenant.
Bernard Cerchiglini.
L'Académie a toute légitimité et tout pouvoir depuis 1635 et les statuts de l'Académie. Donc pour la France, les choses sont claires. La question se pose pour la francophonie. Et c'est bien le point. C'est-à-dire que du temps où les Français étaient majoritaires parmi les locuteurs, l'Académie pouvait décider. Elle l'a fait souvent et très bien. Maintenant, les Français et les Belges, qui sont les berceaux de la langue, sont minoritaires. Et donc, l'Académie peut-elle donner un avis concernant le bon usage au sujet d'une langue qui est mondiale et riche? Et la question de la féminisation, c'est bien cela. C'est un phénomène qui a commencé au Québec, qui serait répandu en Belgique et en Suisse, et qui a un peu échapper à l'autorité de l'Académie, d'où sa réaction, disons, crispée pendant quelques années.
Bernard Cerchiglini, dans la question de Philippe, il y avait aussi, est-ce que cette décision est importante ? Alors, vous qui êtes linguiste, qui suivez la question depuis très longtemps, est-ce que c'est quelque chose qui fera date ? Est-ce que c'est un événement ?
Je dis oui. Bien sûr, parce que l'Académie, non seulement a toute légitimité, mais elle est un symbole. L'Académie dit le bon usage. Elle est gardienne d'un bon usage ou greffière, on peut en débattre. Donc c'est important que l'Académie enfin reconnaisse que l'usage est légitimement celui de la féminisation. C'est une date. L'Académie reconnaît aussi la variété et la vitalité du français mondial. Ce n'est pas anecdotique du tout.
Daniel Salmon.
Oui, il est clair que la langue elle-même s'est emparée de cette question depuis longtemps, puisque la plupart des métiers, d'ailleurs, plus on descend, si j'ose dire, dans l'échelle, plus cette féminisation s'était faite sans difficulté, boulanger, boulangère. On remarquera d'ailleurs que d'autres féminisations s'étaient faites, mais ont disparu, comme doctoresse. Quand j'étais enfant, on disait la doctoresse.
Moi aussi,
on l'a
plus
dit. Bien. Il est clair que l'Académie, vous le dites, est la gardienne du bon usage. Elle est aussi, et je crois qu'elle redéfinit bien sa place en disant qu'elle doit tenir compte de l'usage. Elle assiste. Ah, nous assistons tous à des évolutions extrêmement importantes dans la langue qui concernent pas seulement la question des métiers, qui au fond ne posaient pas le plus de problèmes, mais celle des fonctions. Puisque la question des fonctions, pendant longtemps, était considérée par l'Académie comme plus on s'élevait dans ses fonctions, les fonctions régaliennes ou les fonctions, comme étant échappant à la personne qui les occupe, donc homme ou femme. Mais pour ma part, la question se résout très simplement. Et tout à l'heure, j'ai répondu un peu vivement à notre interlocuteur sans aucune volonté d'être agressive envers lui. Mais pour lui dire que nous sommes pénétrés de l'idée qu'il s'agit de la visibilité des femmes dans le monde. Les femmes occupent de plus en plus de métiers et de fonctions, à tous les niveaux, y compris les plus élevés. Et quand Maurice Druon, dans un célèbre enregistrement, dit « Quand une femme sera présidente de la République, elle sera présidente et pas présidente », je comprends que jusqu'à un certain point, y compris chez Maurice Druon, dans la personnalité qu'il était,
mais il n'était pas tout seul à défendre ce point de vue à l'Académie. Hein. Et c'était quand même un point de vue assez partagé hein, à l'Académie pendant longtemps.
Pendant longtemps, puis il n'y a pas de femme de toute façon. Mais qu'elle devienne la présidente de la République, c'était ça l'enjeu. Est-ce qu'on pense qu'une fonction supérieure comme président échappe ? Non. Elle est présidente. Toujours présidente. La même question. L'incidence pour moi,
aussi.
Les langues, et effectivement les premières ministres, les langues françaises autres que le français de France et le français centralisé, mais aussi la visibilité des femmes. Pour ma part, j'ai longtemps, non pas résisté, mais je sentais que j'en avais pas besoin. Je pouvais être un écrivain, c'était pas grave. Maintenant, je préfère, et bien c'est normal, j'évolue comme l'Académie, je préfère le dire au féminin. On sait qu'il y a des femmes écrivains.
On repart au standard du téléphone sonne. Ralph Eric est à Toulouse et il est au bout du fil. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je suis très intéressé par le fait d'avoir entendu parler d'usage. Et effectivement, personnellement, je crains que le fait de sexuer une profession puisse être mal interprété, mal utilisé par tel ou tel, ou dans telle ou telle circonstance, ou dans telle ou telle profession, et qu'au contraire, ça puisse être négatif pour les femmes, particulièrement.
Vous avez un exemple
qui n'en est pas un, mais autrefois, c'est pas tout à fait dans la même chose. On disait « Ah, c'est une femme au volant !» Je trouve ça scandaleux, n'est-ce pas ? Mais voilà, donc là, il n'y avait pas de nom de profession. Et par ailleurs, je voudrais quand même signaler que, de mon point de vue, l'usage d'un neutre me paraîtrait beaucoup plus digne pour la profession et pour le titulaire de cette profession, et qu'en outre, il y a un certain nombre de mots qui sont difficiles à féminiser. Tous les mots en « e » muet, comme « spéléologue », etc.
On va y venir, Alphéric.
On peut rien faire, n'est-ce pas ? Ou « médecin ». Médecin, on peut appeler une médecine. Ah. C'est une blague, hein, n'est-ce pas ? Mais bon, voilà.
On va
donc,
y venir.
Je pense qu'on est en train de créer des problèmes peut-être plus complexes que ceux que la solution en faveur des femmes que je souhaite, bien sûr.
Merci Ralph Eric. Bernard Cerchiglini.
Il y a tellement de choses dans cette question, cher monsieur, que je vais répondre dans les deux heures qui viennent. Il est certain que pendant quelques temps, les désignations féminines ont pu sembler un peu péjoratives. Daniel Salnap citait le suffixe « s », qui peut sembler, en effet, inconvenant. De même, un autre phénomène plus général, c'est ce que j'appelais le féminin conjugal. Pendant plus d'un siècle, la pharmacienne n'était que l'épouse du pharmacien. Et donc, quand une femme a eu son diplôme, elle n'osait pas s'appeler pharmacienne, donc elle s'est appelée pharmacien. Donc, le féminin semblait diminuant, péjoratif. Mais ça, ça a duré une génération ou deux. Maintenant, les femmes sont pharmaciennes, ambassadrices, ainsi de suite. Pour ce qui est de la féminisation, ben justement, si l'on prend comme base le masculin, on ajoute un « e ». Sauf quand le « e » existe déjà, ce qu'on appelle l'épicène entre nous, spéléologue, philosophe. Et puis, il y a quelques applications à ajouter. Regardez, monsieur, cette profession un peu rare, le partenier. Le féminin, partenière. Le cheftin, cheftaine. Je viens d'inventer ces noms. Vous voyez, ça veut dire que tout francophone a dans la tête des règles extrêmement simples. Donc, on ne complique pas, on applique simplement les règles de la féminisation qui ont été en vigueur en français jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au recul du statut de la femme dans la société bourgeoise des XVIIIe et XIXe siècles. Alors, bien sûr, je termine, en effet, il a été difficile pour certaines femmes d'admettre qu'elles étaient écrivaines. Cela a pris du temps, même dans notre vie. Moi-même, j'avais du mal à dire écrivaine, je le dis. Et Daniel Salnap, vous le dites vous aussi. Il faut donner un peu de temps à la langue.
Il faut donner du temps à la langue. Il faut dire que quand quelque chose nous choque, c'est tout simplement faute d'habitude.
Bien sûr.
C'était très important. Écrivaine, on objectait, ça fait penser à veine. Ben, on aurait pu dire que écrivain faisait penser à vin.
C'est la même rime.
C'est la même rime. Donc, c'était pas l'argument. Je crois que l'argument de fond, la force de l'académie, je crois, c'est peut-être sa faiblesse par certains côtés, mais je crois que c'est essentiellement sa force. C'est la longue durée. C'est-à-dire qu'elle a traversé des moments, des expériences très différents et qu'elle peut tenir compte de cette longue histoire. Et je crois que, par exemple, lorsque aujourd'hui nous disons, eh bien, auteur. Auteur, on peut dire une auteur et ça suffit, c'est au féminin. On peut mettre un E sans être obligé d'appuyer auteur E. On peut revenir à autrice comme acteur-actrice. On a eu autoresse à un moment. On dira, bon, alors l'académie nous laisse libre devant. Oui, elle ne laisse pas chacun parce que chacun n'est pas libre devant la langue. Elle laisse la langue libre. Parce que la langue, c'est une vitalité, c'est une puissance, et elle fera ses choix. Et l'académie prend en compte, peut-être maintenant, plus que autrefois.
Mais alors, ça veut dire, Daniel Salnap, que l'académie peut dire merci à tous ceux qui, au cours des 20, 30 dernières années, ont fait évoluer les choses, parce que...
C'est tout le monde. Vous savez, quand l'académie est fondée, Malherbe, qui ne pourra pas y participer puisqu'elle est morte, mais Malherbe laisse entendre que l'extension de la langue, c'est la meilleure partie de la ville et de la cour, mais sous ces fameux crocheteurs du port au foin. Ça veut dire que c'est l'ensemble du corps social qu'il prend en compte. Et quand, du temps où j'étais élève, moi, on disait « le professeur », j'étais une école de filles, forcément, et déjà, on commence à dire « la prof », ça y est, c'est la langue qui s'en empare. Donc, dire merci, mais moi, je suis tout à fait prête à dire merci à la langue.
Bernard
et aux usagers de la langue.
Oui, et dans les usines, on disait « ma chef » depuis longtemps. Pour l'importance de l'événement, on vient d'entendre une académicienne dire, on peut dire « auteur »,« auteur e », »,« autrice »,« autresse ». C'est très important, ça veut dire qu'on est en train de desserrer le purisme et que l'Académie française reconnaît la variation dans la langue. Et ça, c'est une date aussi parce qu'elle ne l'a pas fait aisément depuis un siècle.
Bernard Cerchiglini, moi j'aimerais qu'on revienne justement sur ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années. Si on prend par exemple la comparaison avec nos cousins du Québec, où les choses sont allées quand même assez vite, où vous le dites dans votre livre, le ministre est enceinte, la société civile s'est emparée du sujet. Ici, vous dites, on est passé à chaque fois par des règlements, des arrêtés, des circulaires. Il a toujours fallu que le politique intervienne. Sans que ça suive forcément du côté de l'académie, bon ça c'est sûr, mais du côté de la société civile.
Cette question de la féminisation est exemplaire. Elle montre le rôle de la langue en France. Nous sommes en France et c'est une affaire d'État. Au Québec, phénomène social, les femmes de la Révolution tranquille ont accès à tous les droits, à toutes les professions, elles féminisent. En France, il a fallu des règlements, une commission terminologique, un débat... Et puis, des instances qui ont été en conflit, je dirais. L'État d'un côté et le gouvernement de gauche, pour le dire clairement, en 84, en 97, et l'Académie. La langue est une affaire d'État et tout s'est dénoué, je le raconte au début de mon livre, par une réunion en Conseil des ministres.
Alors racontez-nous, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Oh,
écoutez,
quand même.
On était à l'époque de la cohabitation un petit peu musclée entre Lionel Jospin et Jacques Chirac.
97, hein.
97, un jour de novembre. On était au moment des nominations et on était part et d'autre d'accord pour nommer plusieurs femmes directeurs de ministères. Tout allait bien. Et puis soudain, une femme ministre lève le doigt. Jacques Chirac, qui est la courtoisie même, dit « Madame, vous voulez poser une question, ce qui ne se fait jamais en Conseil des ministres. » Et cette femme dit « En effet, quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs de ministères ?» Jacques Chirac, qui a la tripe républicaine, dit « Mais tiens, c'est juste, qu'en pensez-vous, monsieur le Premier ministre ?» Lionel Jospin, qui était convaincu, mais qui n'aimait pas trop qu'on intervienne en Conseil des ministres, dit « Bah oui, en effet, pourquoi pas ?» Et le président se tourne vers le secrétaire général du gouvernement et dit « Ben voilà, ces femmes seront nommées directrices de l'administration centrale. » Et tout a commencé comme ça.
Et on peut dire
ça.
Quelle est celle qui a mis les pieds
dans
le plat ?
Non, je ne peux pas dire son nom, car c'est le huis clos qui gouverne le Conseil des ministres. Mais nous dirons son prénom.
Son prénom, c'est ça ?
Ségolène.
Ségolène. Oui, Daniel Cazenave.
Il faut bien voir que comment on impute à l'Académie une attitude conservatrice. Bien. Il est clair que il y a plusieurs sens dans ce mot. Il peut y avoir eu, et il y a encore, il y aura toujours, parmi les académiciens, des gens qui peuvent être politiquement conservateurs. Mais la fonction conservatrice de l'Académie, c'est un peu différent. Je pense qu'elle est nécessaire. Même si elle exerce à un moment une résistance désespérée contre un phénomène qui, de toute façon, va se produire. C'est très sain. Je pense qu'on a besoin, politiquement, moralement et même personnellement, on a besoin d'avoir un face-à-face entre des puissances qui sont prêtes à avancer et d'autres qui disent que n'avançons pas trop vite. Et je pense que l'Académie n'a pas tout à fait tort de dire « Attention, on ne peut pas forcer le mouvement de la langue. On ne peut pas le freiner, dit-elle maintenant. Ça, c'est bien. » Elle a dit pendant longtemps « Oui, on va le forcer. » C'était peut-être, en effet, le combat entre les deux. Mais c'est nécessaire d'avoir cette puissance-là, je le crois.
Et on repart au standard, si vous le voulez bien, parce que Marion, qui est traductrice, nous attend depuis un petit moment déjà. Bonsoir, Marion.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais dire que moi, en effet, en tant que traductrice, j'étais particulièrement déconcertée quand on voyait, ou d'ailleurs quand on voit encore, tous ces intellectuels si brillants et rationnels qui semblaient perdre toute capacité de réflexion dès qu'il était question de rendre la langue française un peu moins matiste. Tout d'un coup, ils semblaient méconnaître totalement leur langue. Ils oubliaient l'histoire de la langue, qui à l'origine n'était pas matiste, qui l'a été rendue délibérément au XVIIe siècle, je crois. La logique de la langue, qui n'a pas de neutre et qui se structure entre féminin et masculin. Et enfin, le rôle du langage dans la structuration de la pensée, puisqu'il façonne notre vision des choses et du monde. Par exemple, si vous dites que vous avez invité deux auteurs pour votre prochaine émission, tout le monde pensera automatiquement que vous parlez de deux hommes, même si dans votre tête, d'ailleurs, vous ajoutez un « e » à « auteur ». Donc selon moi, il est important de revenir au mot « autrice », c'est celui qui existait à l'origine. Et d'ailleurs, à tous les journalistes de votre antenne qui font l'effort de dire autrice. Merci.
Merci beaucoup Marion. Bernard Cerchiglini.
Oui, en effet, vous avez parfaitement raison. Je crois que l'Académie a été victime d'une certaine misogynie, des ténors de l'époque. Vous avez cité Maurice Druon, pour ajouter Jean Dutour, qui ont forcé cette fois-ci la langue, cette fois-ci. Ils ont eu tort.
Jean Dutour qui se demandait même en 84 si on n'allait pas vers une clitocratie.
Et c'est quand même navrant. Pour écrire ce livre, j'ai relu la presse de l'époque. La misogynie coule à flot sous des plumes académiciennes.
Mais Jules Renard disait « Pourquoi féminiser le mot écrivain ? Bah bleu suffit. Oui, il n'était pas académicien.
Mais non.
C'était en effet un travers général de notre société, il faut le dire.
Général. Qui nous étonne, car nous sommes quoi, 20 ans, 30 ans après. On a accepté à l'époque des mépris, des textes méprisants de la femme. C'est fini cela.
Mais il y a, ce qui veut dire que l'Académie n'est pas une sorte de monolithe qui traverse les siècles sans vouloir changer, c'est que précisément, on peut dire que le grand remplacement, il est peut-être pas entièrement à l'œuvre, mais il a commencé à avoir lieu. Il est clair qu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout cette espèce de bloc que vous qualifiez de misogyne, de résistant totalement à la langue qui féminiserait, mais aussi à la présence des femmes. Il suffit de relire ce qu'ont pu écrire des académiciens hostiles à l'entrée d'une femme. Mais ça, ce sont des moments de la société, c'est une histoire qu'il faut écrire. Et je crois que de grands changements sont toujours possibles. Et l'académie est aussi composée de ceux et celles qui y sont, et des interventions qu'ils et elles peuvent mener.
Bernard Sassou. Cette misogynie a pu atteindre de grands esprits. En 84, Claude Lévi-Strauss et Georges Dumézil produisent un texte qui n'a aucun sens linguistique et qui, scientifique, et qui vient masquer tout simplement un mépris des femmes.
Jacques de la Crotelle, comme le rappelle sa fille dans de très jolis volumes sur son père, rappelle l'Académie ne peut pas faire entrer des femmes, elle n'est composée que de membres. Le bon goût grivois règne en maître. Mais nous sommes habitués à cela, nous autres femmes. Mais oui. Et les hommes aussi sont habitués.
Bien sûr, bien sûr. Et en tous les cas, cette auditrice a raison. En français, pour désigner les professions, il y a du masculin et du féminin. Il n'y a pas de neutre. Et quand on emploie un masculin de façon générique, c'est un masculin quelque peu vidé de son emploi. Mais quand on dit « le docteur va entrer », on pense à un homme, bien sûr, forcément.
Un petit mot peut-être, Bernard Cerchedlini, sur cette notion de neutre qui, pendant des années, a permis à l'Académie française de rester sur ses positions. D'ailleurs, peut-être au passage, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de grammairiens à l'Académie française.
Alors, c'est une question. C'est une question. On peut penser que l'Académie a manqué de grammairiens, car depuis Littré, elle n'a plus de grammairien dans ses rangs, puisque Ferdinand Bruno n'a pas été élu. Je pense le contraire. Je pense que les grammairiens et les académiciens ont deux fonctions différentes, éminentes. L'Académie est l'instance qui, en France, fait le tri. Vous savez, l'Académie italienne s'appelle la Crusca, c'est-à-dire le tri. Elle fait le tri, elle dit le bon usage. Les grammairiens l'étudient. Donc, il faut qu'ils collaborent, mais en dernière instance, c'est l'Académie qui dit, voilà, ça c'est une bonne forme, nous la reconnaissons. Maintenant, elle devra avec d'autres dire, c'est une bonne forme du français mondial. C'est là
Je
le problème.
Je pense que c'est là, c'est véritablement un enjeu contemporain pour l'Académie. La question de la francophonie ou des francophonies. C'est une question. Elle n'est pas encore résolue par l'Académie. J'imagine qu'elle va se la poser. J'imagine que le mode que nous sommes en train d'adopter, qui est de constituer, nous avons des commissions comme la commission du dictionnaire qui sont fixes, mais nous avons des commissions qui sont constituées ad hoc. Je serais tout à fait désireuse, moi, qu'il se crée une commission sur la francophonie, les francophonies. Mais il y a déjà une réponse, un élément de réponse dans le dictionnaire depuis qu'il est mis en ligne, puisque des onglets permettent de faire apparaître aux définitions des mots, des sens, des usages qui sont des usages venus des francophonies. Mais je pense que nous avons un modèle qui est celui de l'Académie royale d'Espagne qui publie les Americanismos à la fin de chaque édition de son dictionnaire. Nous irons dans ce sens. Je ne suis pas du genre à vouloir précipiter les choses, je ne pourrais pas me le permettre, je ne suis que une sur 40. D'ailleurs, c'est compliqué, je dois dire une sur 40, non, je suis une sur 4 et sur 40.
À ce propos d'Anel Salna,
cette question. Vous avez elle est compliquée.
La force des hispanistes, c'est qu'ils ont 23 académies, passez-moi. L'Académie française est si prestigieuse que personne en francophonie n'a osé créer une académie de ce type. L'Académie belge est une académie de savants. Avec 23 académies, on peut travailler et écrire un dictionnaire, en effet, qui est polynorme. Mais c'est un débat tout à fait fondamental.
On va repartir au standard dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on écoute ce qui s'est passé en novembre dernier au Sénat, parce que c'est toujours d'actualité, cette affaire. C'est un échange entre... Enfin, vous n'allez pas entendre le sénateur Gérard Longuet, parce qu'on l'entend pas, mais on entend très bien Brune Poirson, la secrétaire d'État, qui lui répond.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je veux bien croire que votre langue a fourché... dit Madame la Ministre. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là ? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. C'est comme ça. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre. Ah ! Comment pouvez-vous prétendre alors répondre et parler au nom des Français ? Vous me parlez d'aspiration des Français. Mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femme-homme, monsieur le sénateur. C'est ça la réalité. Monsieur le sénateur, je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. Le débat est clos, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Voilà, c'était en novembre dernier, Bernard Cerchedlini. Et comme votre livre s'appelle « Le Ministre est enceinte », et c'est vrai qu'il y a des anecdotes croustillantes à ce sujet-là, il fallait quand même qu'on en dise un petit mot.
Je vous remercie, je bois du petit lait et je rends hommage à la force tranquille de ces femmes, depuis Benoît de Groulx jusqu'à cette secrétaire d'État, qui tranquillement disent non, je suis une femme, vous l'appelez Madame la Ministre, dans mes fonctions. C'est remarquable.
Mais vous avez très bien fait tout à l'heure de rappeler que c'est parfois l'affaire d'une génération ou deux. Il est clair qu'Edith Cresson ne voulait pas être appelée première ministre. Et la future première ministre, qui j'espère arrivera, eh bien, sera forcément la première ministre. Donc, je pense que c'est ça aussi l'Académie. Peut-être c'est un reproche qu'on peut lui faire. Moi, je pense que c'est une qualité. Elle a le sens aussi du temps.
Daniel Salneuve, quand même un mot. Lors du décès de Simone Veil, le secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère, Madame Simone Veil.
Cher.
Ça, c'est encore possible aujourd'hui?
Ben, la preuve. Oui. Quand je suis entrée à l'Académie, j'ai reçu une lettre extrêmement aimable et charmante de Simone Veil, qui ne m'appelait pas consoeur, puisque le mot de consoeur n'était pas encore entré à l'Académie. Au fond, confrère était une sorte, presque considéré comme un mot épicène, finalement.
Il est dans le dictionnaire académique, voilà. Consoeur, maintenant.
Un mot épicène. Donc, elle m'écrivait, ma chère confrère. Ce qui ne m'a d'ailleurs pas choqué, consoeur a tardé à entrer à l'Académie. Je crois que désormais, consoeur, y aura toute sa place. Là encore, il fait du temps.
Consoeur est dans le dictionnaire actuel, en ligne. Donc, pourquoi ne pas l'employer?
Ben oui. Voilà, et on va repartir au standard parce que Françoise a une question très précise à vous poser, je crois. Bonsoir Françoise, vous êtes dans quelle région? Dans le Limousin?
Exact. M'entendez-vous?
On vous entend très bien, on vous reçoit 5 sur 5. Allez-y.
Bonsoir ma radio, bonsoir vos invités. Écoutez, moi je suis une vieille féministe de près de 75 ans et il y a un mot qui m'a toujours extrêmement plu parce que je ne l'ai trouvé jamais de féminin. C'était le mot imposteur. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela pourrait devenir? Parce que j'ai toujours pensé que c'était une qualité masculine, l'imposture. Bonsoir mes amis.
Merci
bonsoir.
Beaucoup Françoise. Alors comment doit-on dire Bernard Cerchi-Guigny?
Quel humour. Vous savez, pour ces mots en « heure » qui posent problème, les Québécois ont une solution très agréable, c'est d'ajouter un « e » qui ne s'entend pas à l'oral, sauf quand on est de Marseille, et qui se lit simplement. Donc pour tous ces mots comme « successeur », »,« prédécesseur », »,« vainqueur », »,« imposteur
oui. »,
on met un « o », un « e », une imposteur. Si le mot peut se dire au féminin, ce dont on peut douter, bien sûr.
Ce dont doute Françoise, en tout cas.
On a toujours eu la ressource de l'article.
De l'article.
On a toujours eu la ressource de l'article.
Et ça suffit déjà.
Déjà, ça suffit. Ce qui est ennuyeux dans cette finale en E, ennuyeux, je ne sais pas, mais c'est qu'on a tendance à la faire entendre, même quand on n'a pas l'accent du midi. Donc on dit une auteure E.
Oui.
Il vaut mieux pas le dire. Mais une auteure, c'est bien. Et quand on l'écrit, on peut mettre...
Une auteure comme une prieure,
autrice,
une supérieure.
Moi, je suis contente de notre amie traductrice qui m'a suggéré... Il doit suggérer autrice.
On a Bérangère
autrice
qui...
Autrice, ça fonctionnait jusqu'au...
Mais ça fonctionne très bien.
Jusqu'à la fin du XVIe siècle.
Si je peux me permettre, on a une question de Bérangère qui nous demande... Elle dit « Je confectionne des confiseries artisanales. Selon le dictionnaire, je suis confiseuse. Mais je déteste ce mot qui sonne mal à l'oreille. Je signe donc confiseur. Mais est-ce que je peux mettre confiseur-re? Est-ce que ce serait autorisé? Est-ce que vous lui permettez à Bérangère?
Il ne s'agit pas de permettre, encore une fois, il s'agit de voir la langue telle qu'elle évolue. Quand on lit le rapport de l'Académie française, on voit que l'Académie est très favorable à ce suffixe « heure », même pour des mots qui, normalement, doivent avoir un phénomène en « euse ». Donc, confiseur, confiseuse. Mais après tout, si vous aimez confiseur, pourquoi pas, laissant la langue évoluer. Au Québec, on voit par exemple qu'on dit plutôt qu'une femme est entrepreneur, plutôt qu'entrepreneuse. Vous voyez? Et entraîneur plutôt qu'entraîneuse. Il est très bien ce suffixe « heure », il est très très discret tout en féminisant. Alors pourquoi pas une confiseur?
J'ai une question aussi de Marion qui témoigne depuis la Suède. Elle dit « La Suède où j'habite est passée au stade supérieur, à savoir le fait d'ôter totalement le genre afin d'inclure les personnes du troisième sexe. » Est-ce que ça pourrait être une solution ça ici en France?
Avant de répondre à cette question qui est assez délicate, je m'aperçois aussi d'un point sur lequel l'Académie adopte une position que je trouve extrêmement juste. Elle ne fait plus autant que pendant toute une époque référence à « c'est pas beau, ça sonne mal, etc. » Je crois que cet argument-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mots qui sont laids. Il y a des mots auxquels on n'est pas habitué. On dit « ah, pompière, la fameuse sapeuse pompière, c'est très laid. » D'abord, on dit jamais un sapeur-pompier, on dit toujours un pompier. On dira une pompière, bien sûr, et ça ne posera aucun problème. Alors, dire qu'un mot est laid, je pense à un argument que l'Académie de moins en moins utilisera. Et puis, je ferai une différence aussi entre, vous avez distingué politique de l'Académie. L'Académie n'a jamais émis des oukases, elle ne vote pas des lois, il n'y a aucune obligation mise dans les diktats qu'on peut lui reprocher. on pouvait considérer tout de même qu'on ne risquait pas une amende. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais en 84, le gouvernement socialiste, tout socialiste qu'il fut, a reculé devant l'Académie. La commission Groun n'a eu aucun suivi. Oui. Son texte n'a pas été publié. Il y a vraiment eu quand même eu un cas de l'Académie, disons-le tout de même. Et d'ailleurs,
rude.
Maurice Druon triomphait ensuite.
Si vous me permettez, on va repartir au standard. Après, on répondra quand même à la question de notre auditrice qui appelait depuis la Suède. Mais là, c'est Fabienne qui est en ligne depuis Paris. Bonsoir Fabienne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je vous entends parler des noms de métiers, mais il semble que tout ça, c'est un peu acquis maintenant dans l'usage. Ce dont d'ailleurs je me réjouis. Moi, ça fait longtemps que je dis une autrice et encore plus longtemps une consoeur. Et en revanche, on ne parle pas de ce qui, à mon avis, est plus d'actualité, à savoir l'écriture inclusive avec l'usage du point médian, que je trouve une pratique beaucoup plus révolutionnaire et, à mon avis, assez détestable. Ça me gêne beaucoup parce que le mot... Et l'allure du mot est déformée, parce qu'il n'y a jamais eu de point au milieu des mots dans la langue française. On ne sait pas trop comment les prononcer, ces mots. Et puis, ça nous est imposé de plus en plus, notamment par des institutions publiques, etc. Alors que, de ce que je peux en voir autour de moi, quand j'en discute avec les personnes qui m'entourent, ça gêne énormément de gens. Et je voudrais savoir ce qu'en pensent les linguistes.
Merci, merci beaucoup Fabienne. Bernard Cerchiglini, sur l'écriture inclusive.
C'est une notation technique, utile pour les textes très techniques comme une offre d'emploi ou une circulaire administrative et encore. Pour le reste, c'est difficile à lire, il s'agit d'une nouveauté typographique, difficile à enseigner. Ce n'est pas une grande promotion du féminin car le féminin se trouve derrière le point ou derrière la parenthèse, et puis c'est manquer de confiance dans la langue. Quand nous avons besoin de signifier qu'un groupe humain est sexuellement mixte, ben nous pouvons le dire tout simplement. Quand ce n'est pas nécessaire, tous les voyageurs sont priés de descendre. Quand c'est nécessaire, les candidats et les candidates sont convoqués. Je crois que utilisons, quand il le faut, la réduplication et laissons la notation inclusive au texte très très technique.
D'ailleurs, le Premier ministre a exclu l'écriture inclusive des textes officiels.
Oui, dans une circulaire très positive sur la féminisation. Il demande d'ailleurs une féminisation régulière. C'est donc une circulaire progressiste. Mais il demande que les textes de l'administration n'utilisent pas cette notation technique, difficile à lire. Il se met dans la tradition de François Ier, qui voulait que les textes administratifs fussent intelligibles.
Il est clair que pour moi, l'argument, c'est moins la laideur que l'impossibilité de lire. Donc la difficulté à la radio, par exemple, d'utiliser des textes en écriture inclusive. Comment faire avec le langage destiné aux malvoyants? Comment faire avec les enfants? Alors on me dit, mais pourtant c'est très simple, M suffit d'un point, vous dites monsieur, vous êtes habitué. Oui, mais c'est très peu. Alors que si j'ai une page entière écrite avec candidat T.E.S, mais je suis de la vie de Bernard Cerchiglini, je ne suis nullement gêné quand on me le reproche, je balais ce reproche de dire ceux et celles. J'ai enseigné pendant des années dans des départements de lettres où j'avais 80 filles pour deux garçons. Je mettais tout au masculin et je leur disais tout de même, à vous deux, vous suffisez à faire basculer la phrase au masculin. Et bien maintenant, je ne dirai plus les étudiants me rendront, je dirais, les étudiants et les étudiantes, sans difficulté.
Alors, on repart au standard rapidement. Gaëlle est en ligne. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir.
Si vous avez une question pas trop longue, parce que la pendule, ça tourne, là, il est déjà pratiquement 55.
Alors, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plus un témoignage, parce que moi, je suis médecin, et depuis peu, et quand j'ai passé ma thèse l'année dernière, j'avais commencé le diaporama avec doctoresse, thèse de doctoresse en médecine, ce qui n'était pas ce qui était demandé par la fac, puisqu'on avait... il y a des normes, et la norme, c'était docteur. Donc j'ai tenté doctoresse, le jury a été surpris, ils m'ont laissé continuer quand même. Et j'ai posé ma plaque il y a 3 semaines en mettant docteur avec un E, parce qu'entre-temps, on m'avait dit que doctoresse était la femme du docteur, donc J'ai pas osé mettre doctoresse.
Eh ben, vous mettez docteur. Merci.
J'ai mis docteur avec un E et toutes mes ordonnances sont docteur avec un E. Et quand je fais des courriers, c'est cher confrère, cher consoeur. J'ai dû corriger tout mon logiciel médical.
Eh ben, merci, cher docteur, voilà. pour cette remarque.
Très bien.
Merci mille fois. Moi, j'ai encore des questions, là, qui nous arrivent, notamment sur franceinter.fr. À quand la féminisation de la grammaire? Quand est-ce qu'on arrêtera de dire que le masculin l'emporte sur le féminin? Ah, bah, si, c'est essentiel. Et notamment la règle de proximité. Bernard Cerchiglini, qu'est-ce qu'on fait avec
Daniel Salnave, un très bel exemple que je permets de citer. Deux phrases. Les fleurs et les fruits sont beaux. Les fruits et les fleurs sont belles. Est-ce que ça vous gêne vraiment? Non.
Non.
Moi non plus.
Non.
Vous voyez?
Non.
Revenons peut-être à l'accord de proximité. Non. C'était une belle chose. Des grammairiens...
Les hommes et les femmes sont belles?
Eh bien, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Tous les hommes et toutes les femmes sont belles.
Oui.
Pourquoi pas? C'est une question d'habitude, vous l'avez dit. Ce qui est nouveau paraît inesthétique.
Même...
Mais n'oublions pas que c'est une règle choisie par des messieurs qui étaient grammairiens du 17e siècle.
Mais même le fameux neutre « le », par exemple.
Mm-hmm. Ah.
Êtes-vous malade? Non, je ne le suis pas. Mm. Madame de Sévigné dit « non, je ne la suis pas ».
Mais bien sûr.
Et je pense qu'on pourra tout à fait réintroduire cette phrase, cette formule.
Jusqu'au 17e siècle, on disait « reine, je la suis », ce qui est logique.
Voilà.
Il y a eu vraiment une masculinisation de la grammaire au 17e siècle, où nous devons à des gens par ailleurs estimables, comme Vaugelas, Bourg, mais ce n'était pas les meilleurs amis des dames. C'est une époque où tout de même, les écrivaines disparaissaient.
Une question pour vous, Daniel Salnave, posée par Edith. Elle s'adresse à vous, hein, sur franceinter.fr. Ne pensez-vous pas essentiel de remplacer le matrimoine, dans la langue? Si l'on en reste à patrimoine, on ne reconnaît pas la chaîne des créatrices avant nous.
Alors, c'est, la question du patrimoine, ce n'était pas une affaire de création, de reconnaissance de la création. C'est l'affaire d'un système dans lequel la transmission, l'héritage, était lié à la filiation patrilinéaire. Donc, c'est une question très compliquée. Le matrimoine a été d'ailleurs le titre d'un livre féministe des années 70. Je pense qu'elle se pose, mais faudra-t-il dire la matrie, parce que nous, la mère patrie est une matrie. La mère patrie, c'est déjà très bien, puisqu'on a à la fois père et mère dans la même formule. Je crois que il faut que nous soyons conscients, nous sommes dans une époque de transition, et c'est très passionnant. Qu'est-ce qui va se passer vraiment, en fait? Et je crois que le grammairien, comme l'Académie, sont attentifs à cela.
Bien sûr.
Bernard Cerchiglini, les
Bien
prochaines
sûr.
Étapes.
Et écoutez, les prochaines étapes, c'est la reconnaissance de la vitalité mondiale du français. Je crois que c'est tout à fait important. Nous y sommes, 275 millions de locuteurs qui inventent des mots, des constructions. Tout ça est une richesse extraordinaire et nous aimons.
Au Sénégal, on dit essencerie au lieu de station-service.
Ben,
mais adoptons essencerie de toute urgence.
En Suisse, depuis plus d'un siècle, on agende un rendez-vous. Et on pourra en citer de nombreux. Le président de la République a souhaité qu'on lance, et c'est fait, un dictionnaire des francophones numérique, interactif, qui va faire le bilan de tous ces mots merveilleux du monde entier.
Et j'espère que nous serons en lien avec notre dictionnaire.
Mais c'est déjà fait.
Voilà, et puis vous reviendrez tous les deux pour en parler, promis, juré. Le ministre est enceinte, Bernard Cerchiglini, c'est au Seuil, l'Églantine et le Muguet, Daniel Salnave, c'est chez Gallimard. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, merci à ceux qui étaient à la technique ce soir, Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Raphaël Rousseau, merci aussi aux standardistes de l'émission.